de l'immensité d'ignorance qui m'obéit. Je ne sais rien. Mais j'apprends tellement. J'apprends tellement. Et je suis ravi. Et je pense que je peux dire que nous sommes ravis et enchantés par la prestation de M. Bad et de M. Strauss. Et je préfère me taire et vous donner la parole.
Qui ont brillé à l'étranger. Bon, il y a pas de place Frère Marx à Strasbourg. Il y a, on ne sait pas que, enfin, je vais savoir si c'est en Alsace que Weierstone, en fait, c'est un Alsacien. Enfin, c'est un Alsacien de l'Alsace bossue. Enfin, il y a des choses extrêmement positives qu'on ne voit pas, en particulier pour ce qui est la guerre. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de ça? Pourquoi est-ce que c'est des choses qui ne sont jamais relevées? On ne le voit que de manière épisodique.
Justement, sans aller au fond des choses qui méritent effectivement des commentaires, je voudrais quand même attirer votre attention qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites depuis une dizaine ou une quinzaine d'années. Et je retourne vers vous pour vous inviter à lire toutes ces choses, parce que vous pouvez me certifier, c'était il y a quelques années, on était ici pour faire ce colloque sur les résistances des Alsaciens Modena. Les deux éminents participants de cette époque, au moins. Et donc, vous avez un volume qui est sorti, que j'ai publié en mon nom, l'Université de Metz, qui est toujours disponible. Donc, vous avez un aspect, mais vous savez, ça peut faire l'objet de beaucoup de manifestations. Encore faut-il déjà lire ce qui existe. Et nous sommes frustrés, les historiens, en constatant ce qui a été fait avec notre participation, et je pense c'est moi, depuis une vingtaine d'années, ou même plus. Alors, cela dit, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites, et vous avez raison de poser le problème. Il est clair que la résistance, on n'en évoque pas tellement l'existence, parce que tout simplement, les témoins et les victimes majoritaires, ce sont les incorporés de force, ce sont les Alsaciens restés sur place qui ont des dispositions politiques contre, et les résistants ont souvent agi à l'extérieur de la région et sont considérés presque comme des gens illégitimes parce qu'ils ont quitté le pays. Donc vous avez des problèmes politiques qui sont... Oui, et c'est toujours... Je reviens à mon exposé de tout à l'heure. Il y a beaucoup de choses qui relèvent de ce que j'ai dit tout à l'heure sur les controverses d'ordre politique qui modifient la perception des choses. Tout à l'heure, il y a une chose à parler de l'affaire de la collaboration ou du ralliement. Et je ne suis pas étonné que le conseiller général Jean-Laurent Bonneau utilise le terme de collaboration, qui minore le nombre de ralliés.
Non, il accepte de ton...
C'est gentil, parce que cette affaire-là, j'ai élaboré ça au début des années 90, parce que tout simplement, je considère que toute l'accusation, si vous voulez, du citoyen français lambda, consiste à dire que les Alsaciens ont collaboré massivement, non, ce n'est pas le problème. Il y a eu quelques ralliés, mais il était facile dans les autres départements français, de collaborer sans plus. L'Allemand demandait de livrer ceci ou cela, ou d'exécuter des dispositions matérielles, administratives. On collaborait sans conséquence. On ne demandait pas aux citoyens français de se rallier au régime nazi. Alors qu'ici, on ne demandait pas de collaborer, pour demander que les gens se rallient au régime nazi, sous peine de sanctions, ce qui n'a rien à voir. Donc le régime à l'intérieur de la France était bien, bien léger. Ça aussi, disons que pour une fois que je suis plus dans la défense, si vous voulez, de citoyens alsaciens lambda, il faut quand même prendre ça en considération. Il est entendu que c'est vrai que l'immensité et la monstruosité de ce qu'a été l'incorporation de force de gens qui, dans une très large mesure, ne voulaient pas devenir soldats allemands. Et le nombre considérable de manifestations courageuses, quelquefois même périlleuses, des conscrits ou de ceux qui sont incorporés, l'a prouvé. Hein. Il y a des quantités d'exemples de jeunes qui, quand on les embarque dans les différentes gares alsaciennes, chantent la Marseillaise, écrit des tas de choses tout à fait subversives pour l'époque. Mais cela fait disparaître toute une série d'autres drames. Le drame en particulier que vécurent ceux qui soit ont choisi de rester ou ne pouvaient pas revenir en Alsace, donc ont choisi de rester en France, le drame de ceux qui furent expulsés. En Alsace, il y a quand même environ 50 000 Alsaciens, beaucoup moins qu'en Moselle, mais enfin 50 000 Alsaciens qui furent chassés de chez eux dans des conditions très dures et qui vécurent en exil pendant 4 ans et demi ou 5 ans. Le drame des Juifs Alsaciens, dont aucun, évidemment, n'a été livré à la Shoah en Alsace même, puisque à la fin du mois de juillet 1940, à la suite des expulsions commencées le 14 juillet 1940, l'Alsace était, comme l'annonçait triomphalement un professeur du lycée de Colmar dans la presse alsacienne de l'époque, l'Alsace était pour la première fois de son histoire Judenrein, c'est-à-dire purifié, débarrassé de tous les Juifs. Or, dans les régions de zone nord ou de zone sud où ils vécurent par la suite, où ils se réfugièrent, où ils furent hébergés plus ou moins bien, et soumis à la persécution du gouvernement de Vichy, qui dans ce domaine chercha à faire aussi bien que les nazis, furent pour une partie importante d'entre eux, victimes de l'extermination, soit par la déportation vers l'Est, soit par les exécutions et les massacres commis en France non annexée. Et on oublie aussi, évidemment, la part très importante des Alsaciens et des Mosellans dans la résistance en France et hors de France aussi, dans la France libre, qui est certainement plus importante proportionnellement que celle de toutes les autres régions, pour toutes sortes de raisons. On n'oubliera pas, par exemple, que trois membres du Conseil national de la résistance était d'origine alsacienne. On n'en parle pas beaucoup en Alsace parce qu'il se trouvait que les trois étaient d'origine juive et que deux d'entre eux étaient communistes. Mais c'est quand même vrai que la secrétaire de Jean Moulin était une Alsacienne de Sainte-Marie-aux-Mines évadée en 1941 et réfugiée à Lyon, qui fut ensuite déportée et qui fut une des six femmes décoré par le général de Gaulle de la Croix de la Libération, six femmes sur 1200, je crois, compagnons de la Libération. l'époque n'était pas encore pas encore très féministe.
Merci.
D'abord, merci à nos amis Strauss et Van, parce que je trouve que même moi qui connais un peu plus le sujet que notre ami Ali, j'ai encore appris des choses aujourd'hui. Voilà, et donc il y a beaucoup de choses, ça vaudrait le coup de discuter plus longtemps que ce qu'on a comme temps. D'abord, une chose à propos de ce qu'Alfred a dit, concernant le rapport aux politiques ici. Bon, je me demande si les choses... tu as souligné que c'est des phénomènes qui durent sur des générations, hein, que ça change pas vite, ça. Et bon, moi qui ai commencé à faire de la politique au milieu des années 60, j'ai tout de suite perçu ça. C'est-à-dire, en gros, politique, pouille, caca, quoi, hein, scheisse, voilà. Et ce sentiment que dès qu'on est un peu à côté, on est vraiment le diable, quoi. Et puisque, je ne sais plus si c'est toi ou Léon qui a parlé de Jean-Louis English, que j'ai connu, moi j'ai encore chez moi un article, une espèce d'éditorial en page régionale de Jean-Louis English, qui est daté de 1974. Bon, c'est l'année où le carnaval officiel Bim Bam avait disparu. 74, c'était pas très loin de mai 68, c'était encore assez agité. Il devait y avoir Marcelin, ministre de l'Intérieur, je pense, à Paris encore. Et moi, j'étais dans un groupe de gens qui s'appelait les Muserovokos, les voyous de la museau, et on avait en groupe fait renaître un carnaval véritable d'en bas, quoi. Hein, il y avait sur l'affiche d'ailleurs, que malheureusement je n'ai plus, une tête de singe avec la coiffe alsacienne, hein, c'était en noir et blanc l'affiche, et il y avait marqué dessus gratis, une selbst morte, France Nord, c'est-à-dire bon carnaval gratuit et autogéré, quoi. Voilà, on était encore dans les années après mai 68, et il y a eu des incidents à la rue Mercière en face de la cathédrale, et English, avec intervention de la police et tout, bon, il y avait du monde, hein, il y avait de la foule, et English, le lendemain, a écrit un article en disant, et bien entendu, se trouvait parmi les perturbateurs, ou je ne sais pas quel terme qu'il utilisait à l'époque, les agitateurs ou les gauchistes, je ne sais pas quoi, Jean-Claude Meyer, voilà. Bon, c'était tellement faux, parce qu'en fait, je faisais du théâtre, j'avais un masque en papier mâché ce jour-là, et pas loin de là, bon, mais c'était tellement faux que j'ai déposé à l'époque une plainte auprès du procureur de la République, pour diffamation. Bon, bien sûr, la plainte a été classé sans suite et je ne me suis pas porté partie civile. Mais j'ai toujours cet article, je l'ai raconté à English et aussi à Daniel Rio, son compère, bon, qui était un peu du même style. Bon, c'était une petite anecdote perso. Moi, j'ai l'impression que, quand même, en grande partie, cette histoire de la politique comme chose sale, qu'on ne fait pas directement, et des débats contradictoires qu'on n'aime pas, c'est encore aujourd'hui très présent. Hein. Quand on regarde, par exemple, comment s'organise le débat, entre guillemets, politique, ou l'absence de débat, à travers les dernières nouvelles d'Alsace, par exemple, il me semble que c'est toujours vrai. Et c'est quand même pas pour rien que l'Alsace est encore la dernière région, n'est-ce pas, où on a une droite issue de tout ce que vous avez raconté, là, qui a le pouvoir, là, dans les conseils généraux et au conseil régional. Et je me demande même, ça c'est une question que je vous pose pour l'avenir, si la relative, comment dire, avancée, bon, d'une social-démocratie, d'un parti socialiste, même aussi bon qu'il est, n'est-ce pas, un peu comme Roland Ries, si ça marque ou non, parce que je ne sais pas trop, si ça marque ou non une rupture avec ça. Bon, moi j'aurais tendance à dire le côté consensuel de Roland Ries, bon, que j'ai bien connu comme prof et syndicaliste, me fait dire que c'est un peu la continuité de la politique alsacienne ou de la non-politique alsacienne. Bon, c'est une première chose. Deuxième chose, je serai plus bref. Alors, pour répondre à la question là, des résistants, quand même, bon, moi je fais comme eux, hein, il faut lire les bouquins.
Non, mais je parlais pas de ça, je parlais pas de la réflexion, tu parlais de l'absence de la
qu'on n'en parle pas.
C'est peut-être pour la parole politique.
Ah oui, non, mais ça c'est vrai. Non, 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 mais t'as raison. Non. Oui, oui. Jusqu'aux années 60, on n'en parlait pas. Bon, depuis, il y a eu quand même des vagues de progrès, mais comme ils disent, malheureusement, les gens ne lisent pas les bouquins. Alors moi, ou ne vont pas aux conférences. Moi, j'ai entendu plusieurs fois, ne serait-ce que, c'est pas un ami politique, mais ça a été un résistant, André Borde, ancien ministre du général de Gaulle, hein, encore à la communauté juive, il n'y a pas très longtemps, il est venu et plusieurs fois, il a raconté comment il a résisté, etc. Bon, il y a un petit bouquin formidable qui est sorti il y a 2-3 ans, je ne sais plus si c'est chez Armand Peter ou pas, BF Édition, c'est sur la main noire, ces jeunes qui ont... Hein, c'est pas chez Armand Peter, non? Bon, enfin, c'est une petite édition qu'on trouve au lycée Saint-Étienne, il y a eu un jour une soirée avec même un type qui est encore vivant, hein, un membre.
Un film sur la main noire.
Voilà, c'est ça. Ouais. Donc la main noire, les jeunes hein, de 20 ans, qui balançaient des cailloux dans les vitrines où il y avait des symboles nazis, qui ont raté un attentat contre le Gauleiter, etc. Bon, et qui ont fini décapités, hein, et à la hache pour les femmes. Il y a eu... non, ça c'est à la Rose Blanche, pardon. Non, ça, je confonds avec la Rose Blanche, pardon. Oui.
Personne n'a été décapité à la hache.
Non.
Non, alors ça c'est une légende.
Ah. Si, vas-y, fais-nous le point, parce que là,
depuis le 1er janvier 1938, la guillotine est généralisée en Allemagne.
Je parlais pas, ah oui. Ah, d'accord. Mais il n'y a pas des gens qui ont été... Les gens de la Rose Blanche.
Non.
C'est faux?
C'est faux.
Ah bon? Parce que c'est écrit dans le...
Hein?
Ah bon?
C'est faux.
Parce que
moi, j'ai lu... Non, c'est pas lu.
Oui. Moi, j'ai lu dans un livre que justement, parce qu'elle était une femme, elle n'a pas été fusillée. Hein? Ah bon, mais c'est faux. Ah bon, d'accord, ok, voilà. Et alors juste, excuse-moi...
Un historien anglais qui a fait un excellent livre sur l'histoire de la peine de mort en Allemagne.
Okay. D'accord, enfin, c'est utile, je te le donne tout de suite. Hein. Juste une chose, Roland Pfefferkorn, le sociologue là, de Strasbourg, il a fait un petit travail sur les cahiers d'école en usage dans la zone du Nord, d'où il est issu, en Patelin, là où c'est Niederbronn, et pour essayer de voir comment le nazisme pénétrait dans les esprits des jeunes à l'école primaire. Hein. Bon, ça, c'est un truc qu'on peut trouver, c'est assez intéressant. Et il m'a révélé une chose que je ne savais pas, c'est que quand il y avait un mariage en Alsace, tous les mariés, les jeunes mariés, recevaient le Mein Kampf. Hein, et que donc, dans beaucoup de greniers allemands, alsaciens, pardon, se trouve peut-être encore Mein Kampf. Bon, alors, moi, la question que je voulais poser, juste pour terminer, après je te donne la parole, c'était quand même, parce qu'on est réunis là aussi par rapport au FN, ici en Alsace, ces scores faramineux, etc. Donc moi j'aimerais bien qu'on fasse à un moment quand même le lien. Donc je me pose la question suivante. Et comme il y a des jeunes, alors la presse appelle ça des skinheads, d'après un spécialiste, on devrait plutôt dire bonehead ou nazi skin, parce que historiquement les skinheads sont des gens de gauche et d'extrême gauche, et des reggae. Hein. Donc moi j'utilise exprès, y compris dans ma feuille de chou, le terme de bonehead et de nazi skin. Hein, c'est pas les mêmes. Bon, voilà. Même si tous ont parfois le crâne rasé, aussi bien ceux d'extrême gauche que d'extrême droite. Hein. Autrefois, on les distinguait les uns avec des lacets rouges et les autres des lacets noirs. Bon, mais maintenant c'est fini, ils se confondent plus ou moins. Enfin, c'est une question terminologique importante parce que les DNA, plusieurs fois, ont titré, encore aujourd'hui, je crois, ou hier, hein, sur les skinheads. Or, les skinheads sont d'extrême gauche.
C'est le procureur de la République qui a employé.
Oui, bah, il est ignorant. Il connaît pas cette musique. Voilà. Non, mais c'est pour ça que je fais le point parce que c'est quand même un petit point comme ça. Hein, c'est une erreur de terminologie. Bon, donc juste, voilà, ma question c'est, qu'est-ce qui peut faire aujourd'hui que des jeunes, d'après la presse, de 16 à 27, 28 ans, hein, dont certains, je les connais, je les rencontre, parce que les fascistes, on les voit, ils viennent parfois au début perturber le cercle de silence, bon, on a des photos d'eux, on en connaît, je ne sais pas si c'est ceux arrêtés ou pas, enfin, la mouvance, en gros, on en connaît certains. Qu'est-ce qui peut faire chez des jeunes d'aujourd'hui qui ont 20 ans, en gros, qu'ils soient attirés par cette idéologie nationale-socialiste et au fond qu'ils ne se contentent pas finalement de Marine Le Pen qui donne une image, proprette, n'est-ce pas, des mêmes idées enfouies, mais elle donne une image proprette de ça et en apparence elle se sépare de ces nazillons. Donc voilà, l'Alsace quand même il y a quelque chose de spécial. Et puis il y aurait le cas de Pfimlin qui a été évoqué. Moi je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas un bouquin d'historien sur Pfimlin qui dise la vérité sur lui.
Tu fais semblant.
Hein? Tu fais semblant.
De dire ça.
Non.
La réponse, tu vas.
Tu me réponds.
En tant qu'ancien résistant, je voudrais dire quelques mots.
surtout mon expérience personnelle de la résistance alsacienne. Tout d'abord, en ce qui concerne la manière dont certains résistants ont été assassinés par les nazis, autant que je sache, mon ami, mon meilleur ami, qui a été condamné à mort par les nazis, a été tué à l'arrache, à Stuttgart, en 1943. J'ai déjà également lu j'ai déjà lu aussi des déclarations au terme desquelles ce ne serait pas exact. Mais j'aimerais bien connaître la vérité sur ce plan. En ce qui me concerne, j'ai la chance, entre guillemets, d'avoir fait partie de la résistance. Je suis né en 1922, j'avais 14 ans en 1936, et je considère que j'ai été résistant à partir de 1936, parce qu'il y a une continuité absolue entre ce qui s'est passé en 1936 et ce qui s'est passé par la suite. J'ai été un militant antifasciste très présent à partir de 1936, et mon activité s'est déroulée, j'étais à ce moment-là secrétaire du comité local des jeunesses socialistes, et je travaillais très étroitement avec mon ami et mon camarade René Bir, qui a fait partie d'un des plus grands collaborateurs de Georges Baudry, et qui justement a été condamné à mort et qui a été assassiné. Donc, comme je le disais tout à l'heure, je pensais, et cela a été dit et écrit partout, tué à la hache. Mais j'ai donc, avec René Bir, qui lui était secrétaire de l'organisation des jeunesses communistes, au moment du Front populaire, nous avons travaillé très étroitement ensemble et nous avons lutté pour le soutien à l'Espagne républicaine et contre les accords de Munich qui ont été, en somme, le préfixe à la guerre qui a eu lieu l'année d'après. Et j'ai donc eu une activité permanente ensemble avec René Bir. Je suis parti d'Alsace en 1940, j'ai adhéré à l'organisation des francs-tireurs et partisans à l'intérieur de la France, tandis que René Bir, lui, est resté en Alsace, où il a été, en somme, le chef de la résistance communiste dans le Haut-Rhin, le meilleur collaborateur de Georges Baudry. Et j'ai appris en 1943 qu'il avait été condamné à mort par les nazis. Et quand je suis rentré après 1945, ma première démarche a été de rendre visite à son père, qui m'a remis 8 lettres qui ont été envoyées à René pendant qu'il était emprisonné. Sur les 8 lettres, il y en avait 6 qui étaient passées par la censure et 2 qui ont été envoyées avec la complicité d'un gardien de la prison. Et il a eu une attitude extrêmement courageuse, et je n'ai pas les paroles exactes en tête, mais je pensais, et en dehors de lui, il y avait 3 autres camarades de la résistance du groupe de Georges Baudry, notamment Eugène Somta, qui était également un de mes amis. Il y avait Adolphe Mioupac, Et puis il y avait le nom d'échappe maintenant. Voilà. Et je voudrais ajouter à cela des souvenirs qui me sont restés de la période d'avant la guerre. J'habitais dans un petit village du Haut-Rhin. Et dans mes souvenirs, j'ai participé, je me souviens, bien que très jeune, à des réunions électorales. Et je peux dire que dans l'ensemble, dans les campagnes, dans les villages, et dans le Haut-Rhin, dans ma région, tous les villages étaient catholiques. Et tous ces villages, les paysans de ces villages, en principe, étaient sous l'emprise du curé de la localité, alors que dans les villes, la situation était différente. Voilà, je voulais ajouter aussi que il y avait une opposition extrêmement forte contre le gouvernement du Front populaire, notamment contre Léon Blum, et tout ça peut être associé aussi au mouvement antisémite qui existait à l'époque. Et il y a également un mouvement, j'ai ici une citation d'un journal lorrain, Le Messin, du 22 août 1936, que je voudrais vous lire. Nous avons tout près de nous une Allemagne dont l'ordre civique mérite d'être pris comme exemple. Il en est de même pour l'Italie. Mais quant à pivoter paisiblement dans une France amoindrie, révoltée, bolchevisée, non. S'il doit en être ainsi, nous préférons devenir allemands. C'est donc une tendance qui existait à l'époque. Et je crois que c'est très important de le redire.
C'est le même journal qui avait titré plutôt Hitler que
populaire.
Le message.
Voilà, c'est ça. C'est à peu près ce que je suis en train de dire.